Bien que le président Biden se soit engagé à prêter une attention particulière à l'Afrique, se démarquant de son prédécesseur Donald Trump.
Voilà, merci beaucoup Nanit. Et à présent, nos invités pour le débat à Paris, nous avons Morgan Palmer, journaliste et consultant en intelligence stratégique. À Kinshasa, nous avons Henri-Désiré Zouzi, analyste politique, également producteur associé du JT Diplomatique. Et ici à Washington, Michael Sherkin, il est politologue à 14N Strategies. Merci à tous d'être avec nous. Alors, Morgan, la sécurité, la démocratie sont deux thèmes centraux de la visite de Blinken en Afrique. Alors, deux thèmes qui sont au cœur, disons, des débats un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette visite de Blinken en termes de consolidation de la démocratie sur le continent?
Oui, je crois que la démocratie, pour qu'elle soit consolidée en Afrique, il faut qu'elle soit enracinée dans le cœur des gens. Et je crois surtout qu'il devrait avoir un ordre de priorité aujourd'hui qui tienne compte des besoins des Africains aujourd'hui. J'ai entendu un mot que j'ai retenu dans le discours de M. Blinken. Il a parlé de récession démocratique, un peu comme s'il mettait, on pouvait parler de récession économique. Alors, ça va faire un peu caricatural, mais pour le petit gars qui est au Katanga, qui a l'estomac vide, la priorité pour lui, c'est de manger et peut-être philosopher ensuite. Je crois qu'aujourd'hui, c'est prendre le problème par le mauvais bout. C'est vrai que les questions de sécurité, d'économie et de démocratie sont étroitement liées. C'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui viennent lancer des gros investissements en Afrique. La première question qui se pose, c'est quelle est la note de stabilité des pays où on va investir. Or, aujourd'hui, nous avons toute cette partie de l'Afrique-là, avec ce qui se passe au Soudan, avec ce qui se passe en Éthiopie, qui risque un effondrement général. Parce que pour la petite histoire, le Soudan, c'est pratiquement 7 frontières, donc c'est 7 pays frontaliers. Vous imaginez cette...
Nous pourrons revenir plus en détail sur l'aspect économique de cette visite, mais Henri, lors de l'étape kényane, on a vu qu'Anthony Blinken a beaucoup évoqué l'Éthiopie. Hein. En Afrique de l'Ouest, la lutte contre les groupes armés au Sahel aussi, c'est un autre dossier chaud, disons, sur la table. Comment appréciez-vous les efforts diplomatiques de Washington sur ces deux fronts?
Alors, précisément l'Éthiopie a été exclue de la GOA, même si la mesure n'a pas encore été mise en œuvre, mais enfin, c'est déjà un signal qui a été envoyé par Washington. La deuxième chose, c'est que le mois de mai,
Je crois qu'on a quelques soucis avec la ligne de Kinshasa. On va essayer de régler ça. Alors Michael Sherkin, concernant la sécurité, au moment où la France, par exemple, réorganise sa présence au Sahel, la Russie se pointe, notamment au Mali et en Centrafrique avant cela. Quelle devrait être, selon vous, la posture des États-Unis sur cette question sécuritaire?
Je crois qu'en ce moment, les États-Unis sont en train de re-se-focaliser sur l'Afrique, sur la question de sécurité. Parce que je sais que sur Trump, on n'a pas vraiment prêté attention à la question. Maintenant, on a certaines priorités. Un, c'est de repenser l'assistance sécuritaire. Enfin, il y a trois volets. Donc, deuxième volet, c'est d'essayer de trouver des façons de promouvoir la démocratie, ce que Blinken est en train de faire à Kenya et aussi au Sénégal. Et troisièmement, de soutenir la France. Et je crois que là, il faut vraiment mettre en face ce besoin, ce souci américain de soutenir la France, et c'est aussi un peu la réponse à cette question avec les sous-marins, avec l'affaire avec les sous-marins australiens, et pour essayer de retisser,
de redynamiser
les rapports avec la France. Les États-Unis cherchent à trouver d'autres moyens à compenser la France. Et donc, une façon de compenser la France, c'est de redoubler le soutien pour la France en Afrique.
Alors Morgane, sur cette question sécuritaire, entre Boko Haram au Nigeria et dans la région des Grands Lacs, même au Cameroun, mais aussi les groupes djihadistes au Sahel, les États-Unis devraient-ils s'engager davantage pour vous ?
Bien sûr que les États-Unis devraient s'engager, et pour l'instant, j'observe que les premiers gestes qui ont été posés sont l'opposé de ce qui doit être fait. C'est-à-dire que quelqu'un en parlait tout à l'heure, quand on menace de suppression de l'Éthiopie de la Goa, alors qu'ils sont déjà en profonde difficulté, ben, ce que ça fait, c'est qu'on est en train d'aller petit à petit vers un alignement. Je pourrais prendre le cas du Soudan aussi à côté, qui a été suspendu de l'aide de 700 millions de dollars que le pays lui accorde.
Mais alors, pour vous, les sanctions, ce ne sont pas les solutions, c'est pas la solution, les sanctions ?
Non, les sanctions ne sont pas la solution parce que l'un des problèmes auxquels sont confrontés ces pays, pour prendre par exemple le cas du Soudan, sont d'abord des problèmes économiques. À côté de la crise politique qu'on voit, il y a une crise économique qui est réelle, pénurie de médicaments, d'aliments, d'électricité, et donc on peut en citer une pléthore de problèmes. Et ceux qui sont touchés par les mesures d'austérité qu'ont voulu prendre l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, et bien c'est les couches les plus défavorisées, donc en gros la majorité de la population. Donc je crois que l'attitude qu'il faut avoir, sachant que aujourd'hui il y a un autre enjeu, c'est toujours sur le plan politique, c'est que si on sait que la Goa a de fortes chances de ne pas être reconduite en 2025, puisqu'on voit que Joe Biden ne semble pas pressé de se prononcer sur la question, elle n'est pas très populaire aujourd'hui dans l'opinion américaine. Eh bien, le principal risque qui est couru, c'est de voir une exponentialisation des rapports de pression entre la Chine et l'Afrique, alors même que la position de l'Occident aujourd'hui, c'est moins d'Afrique ou alors moins de Chine, ou alors pas du tout de Chine en Afrique.
Michael, je peux peut-être vous poser la même question. Hein. Oui. En termes d'intérêt stratégique, je pense que beaucoup sont d'accord que les États-Unis doivent garder un œil sur ce qui se passe dans le Sahel, par exemple. Mais comment éviter un peu ce qu'on voit un peu avec la présence occidentale ou française dans cette région ?
Bon, il faut le dire qu'en réalité, l'intérêt stratégique pour les États-Unis dans l'Afrique et dans le Sahel, c'est pas très grand. Mm-hmm. La menace soit terroriste ou question de migrants, c'est pas la même chose pour les États-Unis que pour les Européens. Mais ceci dit, quand on regarde le fait que l'Afrique devient de plus en plus importante au point de vue démographique, mm-hmm. et aussi le fait qu'il y a beaucoup de présence des Européens, donc il y a beaucoup d'intérêt pour les Américains, mais c'est un intérêt indirect. Mais ceci dit, il reste à savoir comment exactement les États-Unis, les Américains peuvent s'engager dans leur continent d'une façon productive. Et jusqu'ici, ça reste un mystère, c'est-à-dire que l'engagement américain n'est pas très efficace. On ne voit pas que c'est très productif. Et aussi, il y a toujours le problème de comment soutenir les pays africains sans soutenir les autocrates. Mmh. Ça aussi, c'est une grande question que ni les Français ni les Américains ont su résoudre.
Et il y a quand même ce qui est relevé souvent, c'est que la région du Sahel peut constituer un terrain d'entraînement pour des groupes qui pourraient aussi attaquer l'Occident, y compris les États-Unis. Vous n'êtes pas d'accord avec cette approche ?
Non, c'est juste que la menace n'est pas très forte. Enfin, pas pour les Américains. La menace pour les Européens est plus forte. Je crois que l'intérêt, c'est plutôt dans l'Afrique que les populations africaines deviennent de plus en plus importantes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'opportunités économiques et culturelles. Et bien sûr, il y a aussi les menaces. Mais la menace, c'est plutôt pour l'Europe. Et il y a aussi ce problème de migration qui met beaucoup de pression sur la politique européenne. Donc on a vu déjà que toutes les politiques des partis libéraux sont menacés par les extrêmes et les gens de l'extrême droite. Et donc, il y a une crise de libéralisme qui se passe en Europe, et ça aussi, ça passe en Europe, les Américains. Mais il reste toujours, il faut trouver des moyens de soutenir les pays africains, mais on ne sait pas encore comment on va faire sans vraiment soutenir enfin, les autocrates et les tendances antidémocratiques. Oui,
Morgan, avant d'aller aux commentaires Facebook, rapidement, votre réaction sur ce dilemme qu'évoque un peu Michael.
Oui, mais vu d'Afrique, ce que pensent les opinions en Afrique, c'est que les pouvoirs qui sont ensuite décriés sont d'abord soutenus par l'Occident. Vous voyez un peu, donc quand on parle de dilemme, je crois que la solution au dilemme est tout trouvée. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de pouvoir qui soit installé en Afrique, qui ne soit pas enchevillé d'une certaine manière avec l'Occident. Donc ce que disent les opinions africaines aujourd'hui, c'est de dire que s'il y a une vraie volonté de régler ce problème, eh bien, cette volonté s'exprimerait tout simplement déjà par la non-installation au pouvoir des gens qui sont très à cheval sur les principes démocratiques. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire.
On va aller aux commentaires Facebook, les réactions de nos téléspectateurs sur la page de VOAfrique. Alors, nous avons William Emmanuel Chiswaka qui nous dit que la Russie a élaboré une politique de récupération. Elle profite surtout des faiblesses dans la stratégie des Occidentaux. Si les États-Unis ne changent pas leur politique étrangère, en 2050, tous les pays africains seront séduits par la politique russe. Et puis, Archiduc Théodore à N'Djamena, il nous dit que les relations entre les États-Unis et l'Afrique sont devenues obsolètes et les Africains, l'ayant compris, décideront de s'orienter vers d'autres partenaires pour un résultat gagnant-gagnant. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum. Revient après une courte pause. Deuxième étape de la tournée africaine du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Il s'agit d'un partenaire stratégique pour Washington, puisque le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est première économie du continent et également le premier exportateur de brut vers les États-Unis. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, a demandé à quelques Nigérians ce qu'ils pensent des relations entre les deux pays.
C'est une très belle relation. C'est le mot que j'utiliserai. Leur relation est bonne. Ils apportent tant de choses à cette ville. C'est ce que je vois. La relation avec les États-Unis est bonne et nous sommes toujours heureux de les voir venir sur ce continent.
Maintenant, je pense que nous avons besoin d'un sauveur. Et si c'est lui qui peut venir nous sauver de ce gâchis, je ne crois pas que ça soit une si mauvaise idée.
Il y a toujours eu une relation existante, pas seulement entre les gouvernements, mais entre les États-Unis et les populations africaines elles-mêmes. Et je pense que la relation entre les États-Unis et l'Afrique est davantage définie par la quête de démocratie et de responsabilité gouvernementale.
La quelques réactions à Abuja. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Paris, Morgan Palmo, journaliste et consultant en intelligence stratégique. À Kinshasa, nous avons maintenant au téléphone Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT Diplomatique. Et ici à Washington, Michael Shulkin, politologue à 14N Strategies. Alors, Morgan, la coopération économique entre l'Afrique et les États-Unis se manifeste surtout à travers des outils comme l'AGOA, vous en parliez en première partie, l'USAID, le Millennium Challenge, mais la poussée économique chinoise est réelle hein, sur le continent. Washington et les pays africains doivent-ils revoir leur copie, hein, si on peut dire, dans cette coopération?
Oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la présence de la Chine en Afrique, c'est d'abord l'échec de l'Occident en Afrique. Parce que qu'est-ce que la Chine propose aux Africains? Elle propose des biens et services que l'Occident détient depuis des siècles et des siècles. Et donc, que l'Occident a échoué à implémenter aussi en Afrique, qui est pourtant proche de ses frontières. Ça, c'est la première chose que je peux dire. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de la Goa et du lien qu'il y a entre l'économie. Donc, tant qu'on aura des États qui sont faibles, parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer économiquement, ce sera toujours la porte ouverte à l'insécurité, tout ce que vous voulez. Donc, pour revenir au cas de l'Éthiopie, on en parlait tout à l'heure, quand on apprend qu'un pays déjà en difficulté comme celui-là, en termes de mesures de rétorsion, risque de subir sa suppression de la loi, ça pose un vrai problème. Je vais juste vous prendre une petite image pour que vous compreniez. Hier, à l'arrivée d'Anthony Blinken à Nairobi, son cortège est passé tout près d'une voie express qui est en train d'être construite par le Kenya et financée par Pékin. La salle dans l'hôtel où il a tenu sa rencontre avec la ministre des Affaires étrangères kenyane avait juste à côté une autre salle qui sert de quoi? Eh bien, qui sert de QG à la chambre de commerce Kenya-Chine. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus d'Occident, et plus d'Occident avec du concret. Parce que, si vous voulez, la démocratie, aujourd'hui, comme faire de cheval de bataille dans la conquête de l'Afrique, c'est des plus sexy comme thème. Vous voyez, les gens encore en esprit ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Afghanistan,
mais justement, en Irak. Justement, Henri, Washington veut promouvoir l'investissement privé américain sur le continent à travers cette institution, International Financial Cooperation, dont les engagements pour 2020 ont dépassé le milliard de dollars. Mais comment rendre la destination Afrique plus attrayante pour les investisseurs américains?
Mais d'ailleurs, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient réunies. D'abord, effectivement, une stabilité politique, une sécurité en termes d'investissement, et puis surtout, un partenariat fort qui permet justement à ces entreprises américaines de pouvoir venir et éventuellement faire jeu d'égal avec un pays comme la Chine qui, contrairement aux Occidentaux, n'impose aucune conditionnalité. Donc, c'est bien là la grande différence. Et j'amène d'ailleurs dans le même sens que le commentaire précédent. Et qu'il y a effectivement tout un travail qui va encore être fait, parce qu'effectivement, les Occidentaux, au premier rang desquels les Américains, sont encore, je dirais, conditionnés par des réflexes qui peuvent effectivement les éloigner de la réalité du terrain et ouvrir par conséquent le champ à l'activisme chinois.
Et vous, Michael, les investisseurs américains devraient-ils s'intéresser davantage à l'Afrique, dont la côte ouest est à moins de 8 heures de vol et 7 jours pour les navires cargo?
Ce serait vraiment sympa si les investisseurs américains s'intéressaient beaucoup plus en Afrique. Je ne sais pas comment augmenter cet intérêt. C'est dommage qu'ils ne s'y intéressent plus. Mais je crois que ce qui aide, c'est ce qu'ils font les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois font des trucs avec des grandes publicités, avec beaucoup de panache, avec des coups de théâtre, comme les grandes conférences, les sommets, etc. Et j'imagine que tout cela arrive à attirer l'attention des investisseurs chinois en Afrique. Et il serait vraiment productif, à mon avis, si le gouvernement américain faisait autant.
Alors, Morgan, quand même, pour revenir un peu sur cette question de conditionnalité dont parlait Henri, vous pensez que ce n'est pas quand même un problème si les pays africains ont accès au crédit chinois assez facilement, mais se retrouvent dans des difficultés quelques années plus tard? On a vu le cas de certains pays où la Chine a dû reprendre carrément le port parce que ces pays ne pouvaient pas payer leurs dettes. Ce n'est pas un problème?
Oui, c'est un vrai problème. Et de toutes les façons, la vraie problématique se pose au niveau des relations séculaires qu'il y a, qu'en Afrique a toujours eu, et l'étroitesse des liens sur le plan culturel qu'il y a toujours eu entre l'Afrique et l'Occident. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, la Chine est un choix par défaut pour les pays africains, dans la mesure où ces pays subissent aujourd'hui la pression démographique, il y a de nombreux défis auxquels ils doivent répondre. Qu'est-ce que vous dites à 70% de votre population qui est jeune et qui est dans les maisons, qui n'a pas d'emploi, qui ne peut pas subvenir aux besoins primaires? Eh bien, vous ne pouvez pas continuer à leur chanter des beaux discours, des messes d'intention. Vous êtes obligé à un moment donné de vous appuyer sur des partenariats. Vous parliez tout à l'heure de la stabilité, des conditionnalités. Mais il est important de savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de philosophie, encore moins d'idéologie, dans des environnements où les gens ont faim. C'est ça la problématique aujourd'hui. Comment on règle les problèmes?
Votre réaction sur ça, faut-il insister moins sur les conditionnalités et un peu plus sur les conditions de vie en Afrique si l'Occident de façon générale veut concurrencer la Chine?
Mais les principes de réalité doivent effectivement s'imposer, et c'est pour cette raison d'ailleurs que certaines réformes sont demandées dans le chef évidemment des pays concernés. Mais il faut effectivement faire ce choix très important pour ne pas pénaliser ces populations et rendre ces pays suffisamment attractifs que pour pouvoir ouvrir leurs portes à d'autres investisseurs potentiels. Et je dirais que c'est un débat qui restera récurrent tant que ces pays seront en capacité d'améliorer leur climat des affaires de manière qualitative.
Alors, quand on parle de climat des affaires, on parle également de liberté, liberté d'investir, liberté de s'exprimer. Henri.
Alors, il y a effectivement, malheureusement, il faut bien le remarquer, une préférence qui est accordée aux investisseurs ou aux investissements directs étrangers, et souvent au détriment de l'investissement local. Ça, c'est une sorte de découragement pour ces messieurs qui entreprennent dans leur pays, mais c'est aussi là, pour le coup, un défi face auquel sont confrontés ces pays-là. Il faut commencer d'abord par créer des conditions dans l'investissement interne pour pouvoir rendre ces investissements attractifs vis-à-vis de l'extérieur.
Alors, pour terminer, Michael, l'administration Biden et l'Afrique, en quelques secondes.
L'administration Biden va essayer sincèrement d'essayer de refondre les rapports. Donc il n'y a pas de grande idée, mais il y a un intérêt. Il y a aussi une volonté d'essayer de trouver des moyens de promouvoir la démocratie et aussi des investissements.
D'accord.
Ça reste à voir comment ça va marcher, s'il y aura des bons effets, mais on va au moins essayer.
D'accord, merci beaucoup, frère de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555.